BW. Droits et libertés.
On sort à peine des commémorations du 9 novembre et des 30 ans de la chute du mur de Berlin que déjà une autre date historique nous fait réfléchir. Le 11 novembre 1918 est signé l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale. Alors cette semaine, rencontre avec un écrivain franco-sénégalais, David Diop, qui essaie de transmettre aux jeunes de 2019 la mémoire des tirailleurs africains. Mais on commence par un hashtag venu du Maghreb, une sorte de MeToo façon printemps arabe. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour à tous. Massactache ! 20 000 sifflets contre le sexisme. Le mouvement Massactache tente de faire du bruit à travers tout le Maroc pour dire non au harcèlement et aux violences à caractère sexuel en général. Leïla Slassi, avocate et cofondatrice du mouvement.
Massactache veut dire « je ne me tais pas ». Cette pièce est la pièce où nous sommes retrouvés au moment du lancement de la campagne au sifflet, Ilad Sarsfré, pour préparer les petits sacs avec les petits sifflets avant que tous les bénévoles aillent dans les rues de Casablanca pour les distribuer.
Et qu'est-ce qu'on voit ici?
Et donc on voit plein de sifflets accrochés à cet arbre. On avait trouvé ça rigolo de le faire à l'époque.
C'est l'histoire de Khadija en 2018 qui est à l'origine du mouvement. Cette jeune fille de 17 ans a été enlevée par plusieurs hommes qui l'ont violée pendant des semaines. Ses ravisseurs lui ont en plus tatoué sur tout le corps contre son gré et lui ont fait subir des tortures.
C'est son histoire qui nous a fait prendre conscience de l'ampleur du problème, des violences faites aux femmes et de l'absence totale de considération, que ce soit dans l'opinion publique, dans le milieu judiciaire, de la gravité de ce que peuvent subir les femmes dans notre pays.
Leïla Slassi critique notamment la coutume qui permet aux violeurs d'épouser leurs victimes pour solde de tout compte au Maroc. En 2012, la jeune Amina Felali, 16 ans, reçoit ainsi l'ordre d'un juge d'épouser son violeur. Elle se suicide peu de temps après. En Tunisie, la situation n'est pas très différente de celle du Maroc. Là, le hashtag le plus couru est Enazeda, qu'on peut traduire par « moi aussi », l'équivalent de « MeToo », donc. Ce hashtag-là a été lancé début octobre, juste après les élections législatives. Un député fraîchement élu a été surpris en train de se masturber dans sa voiture garée devant une école. Une élève a pris des photos du député et les a publiées sur Internet. L'élu, lui, rejette les accusations. Mais cette histoire a amené Amel Hawet à créer le hashtag Enazed.
Ce qui me choque, c'est le nombre de témoignages qui relèvent de la pédophilie. Parce que, comme tu sais, MeToo, c'est le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel, dans la rue, etc. NAZ, on a commencé à en parler aussi, en termes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle qui arrive sur des adultes, on va dire. On a commencé à parler de ce genre de situation-là. Mais là, les cas de pédophilie, c'est effarant à quel point c'est commun et banal en Tunisie. En Tunisie, quand on soit enfant, adolescent ou adulte, c'est très très dur d'en parler parce que, en général, quand ça arrive, on va en parler à des gens proches. Et ça dépend du degré de, je dirais pas d'ouverture, mais d'éveil et de conscience par rapport à ça. Quand on est une mère, un père, un oncle, un ami, on n'a pas forcément en Tunisie les bons réflexes. Quand on doit entourer la victime, donc on est plutôt dans le tabou, on ne va pas en parler. Et la victime, elle se retrouve plutôt dans le rôle du coupable. Donc c'est la personne qui va ramener la honte sur la famille, etc. On est toujours dans le tabou en Tunisie, que ce soit pour le sexe en général. Je ne parle pas d'agression sexuelle, donc c'est le sexe, on ne trouve pas les mots, le langage n'est pas accessible. Même quand on parle de relations sexuelles, c'est très très dur d'avoir une conversation en dialecte tunisien sans qu'on se retrouve dans des situations où on doit utiliser des mots obscènes et vulgaires. Donc même le langage, le dialecte n'est pas accessible.
On On parle maintenant littérature et héritage historique. Frère d'âme, c'est le nom du deuxième ouvrage de David Diop, en allemand « Nachts ist unser Blut schwarz »,« La nuit, notre sang est noir ». Le roman a reçu le prix Goncourt des lycéens en France l'an dernier. À travers cette œuvre, l'auteur, un universitaire français d'origine sénégalaise, revient sur la contribution des tirailleurs sénégalais lors de la Première Guerre mondiale face aux Allemands. David Diop participe à des lectures, dans des écoles notamment, pour raconter aux jeunes, à travers la fiction, cette partie d'une histoire ancienne pour eux, puisque la Première Guerre mondiale s'est terminée il y a plus de 100 ans maintenant. Bonjour Rélio Koubakin.
Bonjour Sandrine.
Alors vous avez suivi David Diop au cours de l'une de ses présentations, c'était dans un lycée ici à Bonn.
Alors Sandrine, avant Bonn, Boris Diop s'était déjà rendu à Leipzig, c'est dans l'est de l'Allemagne pour le même exercice. À Bonn, des jeunes de deux lycées de la ville étaient réunis ce soir-là, il y avait aussi des adultes dans l'assistance. Une salle avec des rideaux rouges, des questions écrites sur des papiers collés à un tableau, avec aussi des passages du roman. C'était très interactif tout ça comme présentation. Les jeunes étaient très intéressés et ils voulaient savoir comment des jeunes de leur âge ont dû s'engager aux côtés de Français pour lutter contre les Allemands. Pour Mathis, qui a lui aussi des passages du roman au cours de la soirée, il est important de ne pas oublier et lui, il a trouvé des raisons à cette lutte des tirailleurs sénégalais contre les Allemands.
On voit maintenant les gens qui ont oublié toutes ces douleurs des gens à ce temps-là. Ils étaient parfois forcés, parfois ils voulaient devenir des citoyens français. Ils n'avaient rien à voir avec les Allemands, ils n'étaient pas des vrais ennemis qui avaient des ressentiments contre les Allemands. C'était juste pour avoir de la monnaie pour les parents qui ont été parfois pauvres.
Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes qui seront repartis défigurés, estropiés, éventrés, tel que Dieu aura honte de les voir.
David Diop a lui aussi lu des passages de son roman. Il répondait aussi aux questions des lycéens. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la participation des lycéens après une heure de lecture. L'universitaire était enthousiaste à l'idée aussi de savoir que ces jeunes allaient à leur tour transmettre son message.
Eh bien, ils m'ont fait une très belle surprise. Vraiment, je suis très très content du travail qu'ils ont fait de préparation de cet événement. C'est extraordinaire et puis ça me fait dire que bien, grâce à un roman, on peut s'intéresser et faire un retour sur l'histoire des relations entre la France et l'Allemagne et puis aussi entre la France, l'Allemagne et l'Afrique. Et c'est auprès de jeunes qui eux-mêmes vont peut-être aussi à leur tour diffuser ce qu'ils auront appris et ce qu'ils auront entendu. Et ça, pour moi qui suis enseignant, c'est une chose extraordinaire.
Vous les avez sentis intéressés ?
Ah, ils sont plus qu'intéressés, ils sont passionnés et ils ont fait un travail formidable.
Là, vous parliez tout à l'heure d'un message à faire passer, mais peut-être qu'il faut d'abord resituer un petit peu le contexte historique.
Alors, Sandrine, la Première Guerre mondiale, ou la Grande Guerre, a eu lieu entre 1914 et 1918. C'est à Sarajevo qu'il faut aller chercher l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, hein, Sandrine. Parmi les principaux protagonistes, il y a la France et l'Allemagne. La France, qui a besoin de gonfler ses troupes, recourt à son empire colonial. Elle mobilise ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais, qui d'ailleurs ne viennent pas exclusivement du Sénégal, il faut le préciser. La France mobilise donc dans les colonies qui lui sont acquises plus de 130 000 soldats. Il y en avait qui étaient des soldats confirmés, d'autres non. Certains Africains étaient volontaires, d'autres ont été forcés. 11 millions de personnes ont été tuées dans cette guerre. Pour Aurélie, c'est une partie du passé à laquelle il faut faire face, car ce passé affecte aussi l'Allemagne.
C'est part de mon passé. C'est parce que l'Allemagne elle a aussi lutté contre la France pendant la Première Guerre mondiale. Alors ça nous affecte aussi, même si peut-être ma génération n'a pas lutté comme cette génération-là. Mais c'est important de savoir quelque chose sur notre passé, sur le passé de notre pays. C'est important de savoir ce que ces personnes ont dû vivre et suivre, oui.
Justement, parmi ces personnes-là, il y a eu des jeunes. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a des jeunes qui ont quitté leur pays pour venir lutter avec la France contre vous, les Allemands ?
Pour moi, c'est presque pas imaginable parce que moi, je suis en train d'aller à l'école encore. J'ai mon dernier année scolaire maintenant. Je vais faire mon baccalauréat. Et si je pense qu'il y a un jeune homme qui a quitté sa famille, qui a laissé tout derrière pour aller lutter et pour risquer sa vie pour un pays, c'est inimaginable et c'est dur à comprendre. Mais je trouve que M. Diop a bien pu montrer ce que cet jeune homme a pensé dans sa tête et ce que la guerre a fait avec lui.
Et puis vous avez aussi rencontré une Africaine parmi ces lycéens.
En fait, elle n'était pas la seule, Sandrine, mais les jeunes Africains n'étaient pas tout à fait nombreux. Aimée vient du Burundi. Née en Europe, elle est repartie toute petite dans son pays qu'elle a dû fuir en raison de la guerre. Pour cette jeune fille de 15 ans, les Africains ont été très gentils d'offrir leurs bras valides pour faire la guerre face aux Allemands. Aimée aurait tout de même souhaité que les tirailleurs sénégalais soient beaucoup plus âgés.
Quand même des Noirs qui ont été prêts d'aider la France et quand même je trouve ça très gentil et voilà, j'ai été impressionnée.
Maintenant toi tu es encore élève, peut-être que ces gens-là n'ont pas eu l'occasion de poursuivre les études. Quand toi tu entends ça, tu te dis quoi, qu'ils ont raté peut-être leur avenir?
Oui, ça c'est quand même dommage qu'ils n'ont pas eu la chance de continuer leurs études et les choses comme ça. Mais... En fait, c'est dommage qu'ils ont dû partir et laisser leur famille. Et je trouve que ça aurait été mieux si ça aurait été des gens plus âgés. Mais que c'était des enfants, ça m'attriste.
Pour comprendre un peu comment était l'ambiance de la présentation de Frère d'âme Sandrine Narcisse Unser Blutschwass, je vous propose pour finir d'écouter cette chanson jouée par une lycéenne, c'est en Kiswahili.
Merci beaucoup, Réliou Koubakin.
Merci, Sandrine.
C'est la fin de ce numéro de Droits et Libertés. Merci encore à Réliou Koubakin et Dounia Sadaki pour les sons du Maroc et de Tunisie. Vous pouvez podcaster ce magazine sur dw.com/français, rubrique nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.